Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Histoire en Onde, votre émission historique qui nous amène tous les mois à découvrir un nouveau sujet. Je suis Thierry Warnet, accompagné aujourd'hui de Thomas Burkhardt.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous allons parler d'une certaine Olga, reine consort et régente de la Russe de Kiev au Xe siècle. Mais mon cher Thomas, c'est quoi la Russe de Kiev ?
Eh bien mon cher ami, la Russe de Kiev, c'est avant tout un conglomérat de plusieurs peuples, issus de la colonisation des territoires d'Islaves, donc qui s'étendent de l'actuelle Ukraine, de la Russie de l'Ouest, avec les pays baltes, enfin c'est cette zone-là en gros. Et donc cette colonisation, elle est faite par les Scandinaves, et notamment les Suédois. Sans entrer dans les détails, c'est une information que nous confirment nos auditeurs finnois, puisque ces derniers appelaient Ryotsi, ceux qui peuplaient aussi bien les deux côtés de la mer Baltique. Donc la Russe, elle se forme à la fin du 9e siècle, aux alentours de 960-980, et elle s'organise surtout autour de la cité de Novgorod, en actuelle Russie.
Mais par le fait, quelle est la place d'Olga de Kiev dans tout ce conglomérat de peuples ?
Eh bien Olga, c'est avant tout une princesse, hein. C'est la femme d'Igor, fils de Riorik, fondateur légendaire du peuple russe. Olga n'est pas destinée à devenir reine, ni à devenir régente, mais c'est après une série d'événements qu'elle se retrouve à la tête de la principauté et qu'elle jette les bases de la future Russie tsariste.
Par conséquent, en tant que princesse de Kiev et membre des Riorikides par son mariage, nombreux de ses descendants font partie de grandes familles royales, comme la fille de son petit-fils, Vladimir Beausoleil ou Vladimir le Grand, qui se marie au roi de Pologne et qui devient donc Maria Droboniega de Pologne. Elle est aussi, pour la relier au royaume de France, elle est aussi l'arrière-grand-mère d'Anne de Kiev, épouse donc d'Henri Ier, roi des Francs au XIe siècle, ou alors, plus connu en tant que ses descendants, et cette fois-ci en descendant direct des Riorikides, Ivan IV, dit Ivan le Terrible, donc premier tsar de toutes les Russies.
Exactement, mais ce côté terrible d'Ivan, donc le fait qu'il soit fou, qu'il ait tué donc la femme de son fils, qu'il ait même tué son fils sur un coup de colère, bah, ça vient peut-être pas de nulle part. Hein. Parce qu'en effet, Olga, qui est son ancêtre donc à la 18e génération, si je peux me permettre, et qui nous intéresse aujourd'hui, n'est pas sans reste. Comme je l'ai dit, elle n'est pas destinée à exercer le pouvoir, c'est l'assassinat d'Igor qui la propulse à ce stade, et elle va se montrer tout particulièrement impitoyable avec les meurtriers de son mari.
Mais qui sont les meurtriers de son mari ? Pourquoi en voulait-on à Igor, grand prince de Kiev, et surtout petit-fils du grand Riorik?
Eh bien, comme beaucoup d'assassinats politiques, tout commence par une question d'impôt.
Comme par exemple l'assassinat de Nicolas II de Russie en 1918. Les impôts étaient une des raisons, ça et la répression des manifestations. Pour rester donc dans le thème de la Russie.
Alors oui, mais dans le cas d'Olga et d'Igor, c'était pas le peuple directement qui décide de se soulever car il est dans la misère. Mais c'est plutôt un prince drévilien, donc les dréviliens sont un peuple de ce conglomérat, qui décide de tout simplement s'en débarrasser. Pour vous récupérer ça très rapidement, Igor n'est pas du genre très tendre avec ses sujets, il est plutôt du genre violent, à toujours en vouloir un peu plus, comme Don Salus dans La Folie des Grandeurs, si je puis me permettre la comparaison. Donc c'est pour cela que les dréviliens font une sortie, tuent la garde d'Igor, enferment ce dernier avant de l'exécuter quelques jours plus tard.
Et Olga, elle est où à ce moment-là? Elle s'en sort saine et sauve, il n'y a aucune répercussion sur elle. Et l'héritier d'Igor, son fils Sviatoslav, c'est ça? Il s'en sort aussi?
Alors oui, Olga s'en sort, parce qu'elle n'accompagnait pas son mari quand il prélevait la peau. Et pour ce qui est de leur fils, Sviatoslava, bah, il est trop jeune pour prendre la suite de son père. Hein. Donc Olga, elle devient régente. Mais cerise sur le gâteau, le prince drévilien qui vient de tuer son mari demande dans la foulée la main d'Olga. Vous vous en doutez, elle le prend un peu mal, ce qui est normal. Donc dans un premier temps, elle fait mine d'accepter, demande l'envoi d'émissaires qu'elle accueille en grande pompe, donc avec des cadeaux, un repas, etc. Et une fois bien enfoncée dans la ville, c'est tout un peuple qui se retourne contre ces gens. Hein. On en torture certains, tandis que les autres sont simplement enterrés vivants dans des fosses creusées la veille.
Mais c'est des châtiments terribles. Après, pour une vengeance, surtout à cette époque, ça correspond bien. Du coup, après cette vengeance...
Mais ce n'est pas terminé.
C'est pas terminé.
Eh bien, voyez-vous, elle fait demander l'envoi des meilleurs guerriers dréviliens pour la guider jusqu'à la cité de son prétendant. Ces derniers arrivent à Novgorod sans être conscients de ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs. Olga leur propose un bon bain pour se détendre après ce long voyage. Hein. Je veux dire, une journée à cheval, c'est jamais très agréable. Et une fois qu'ils sont dans ces bains, qu'ils se reposent, qu'ils se lavent, elle fait fermer les portes et elle fait mettre le feu au bain. Et ce n'est pas encore terminé.
Pas encore ?
Non. Pour préparer ses noces, elle fait demander une grande quantité d'alcool aux dréviliens, de sorte à pouvoir pleurer Igor. Eux qui ne connaissaient pas le sort réservé à leurs deux précédentes délégations acceptent. Et durant la nuit, du coup, Olga elle attend que tout ce beau monde se saoule, elle pleure, elle fait mine d'accepter des excuses, etc. Et une fois que tout le monde est saoul, elle fait fermer les portes, elle fait égorger, voire tout simplement tuer la plupart de l'élite drévilienne, notamment le tueur de son mari. Et après cela, elle se dirige vers la plus grande des cités drévilienne et leur promet la paix. Mais terrifiée, hein, ce qui est normal, les habitants refusent de la croire. Et donc, en échange de cette paix, Olga demande 3 moineaux et 3 pigeons, comme une sorte de rançon, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'ils acceptent, et ils se pensent sortis du pétrin.
Comment ça, ils se pensent, ils ne sont pas sortis du pétrin? Ça ne fonctionne pas en tant que demande de paix?
Eh bien, c'est simple. Hein. Olga fait attacher du tissu à la patte de ses oiseaux, y met le feu et laisse les volatiles rentrer chez eux. Sauf que ce sont des toits en paille et la ville est en bois. Vous voyez le truc venir?
Laisse-moi deviner, ils embrasent la ville.
Eh oui, la ville brûle. Hein. Donc les survivants sont soit réduits en esclavage, soit tout simplement massacrés. Tandis qu'une anecdote nous dit qu'Olga regarderait la cité brûlée en disant qu'ils brûlent tous.
Et là, cette vengeance est finie.
Eh bien oui. Et donc les Dréviliens ne s'en remettent pas. Ils disparaissent dans la décennie qui suit. Olga, elle, continue de diriger la principauté jusqu'à sa mort en 969. Hein. Mort qui survient juste après un siège qu'elle a mené seule. Pendant que son fils part souvent guerroyer, elle s'occupe de l'administratif, hein, notamment les relations avec Byzance, qu'elle améliore grandement, et il paraîtrait même que l'empereur Constantin VII lui aurait demandé sa main.
Il est bon de noter que donc, cette relation entre Byzance et la Russie commence réellement à ce moment-là, et qu'elle se continue jusqu'au XVIIIe siècle, même après la chute de l'Empire byzantin, du coup, en 1453. Notamment, on peut citer donc Constantin VII qui demande la main de Olga de Kiev, mais on peut aussi citer la nièce du dernier empereur, Constantin XI, paléologue, qui se marie avec Ivan III de Russie, le grand-père de Ivan le Terrible. Et donc, Moscou se fait appeler la troisième Rome après la chute de l'Empire byzantin. Et ce désir de Moscou d'être la troisième Rome se fait ressentir même jusqu'au XVIIIe siècle avec Catherine II de Russie, Tsarina de Russie, qui décide de mettre en place un complot, un projet afin de renverser les Ottomans et de remettre un empereur byzantin sur le trône.
Et beaucoup plus simple, hein, si je puis me permettre, le simple terme tsar est un dérivé du mot kaysar, donc...
Oui, le tsar, oui.
Voilà. Et donc, Olga, elle permet véritablement d'ancrer la Russe de Kiev en amont de l'apparition de Vladimir dit Beausoleil, donc son fils ou son petit-fils, je ne sais plus.
Petit-fils.
Avec donc plus de qui arrive à évangéliser avec plus de succès que sa grand-mère. Et donc, elle sera par la suite canonisée en 1547 pour son travail dans l'évangélisation de la Russe de Kiev. Et encore aujourd'hui, elle est très appréciée par dans les pays de l'Est par beaucoup d'orthodoxes.
Il est encore une fois bon de noter que toute cette histoire, très sympathique à raconter, nonobstant, et cependant, très sûrement, un mythe de fondation. On sait qu'Olga de Kiev a existé, mais ses actes sont très sûrement enchantés par les chroniqueurs de l'époque. On peut citer dans des exemples comme ceci, Grégoire de Tours, avec les Mérovingiens, par exemple, donc pour encore une fois relié à la France, Grégoire de Tours avec les Mérovingiens, qui nous racontent leur histoire, et qui est la seule source qu'on a sur eux, une source qui est comblée un petit peu de mythes. Par exemple, le grand-père de Clovis, Mérové, qui donne son nom à toute cette lignée, n'a très sûrement pas existé, on n'en sait pas grand-chose en réalité. Voilà. Et donc c'est très sûrement un mythe de fondation, tout est à prendre avec une pincée de sel, comme un peu tout en histoire.
Voilà, et pour la simple preuve, on pense que Olga est née vers 860, et il paraîtrait qu'elle se marierait vers 862.
Oui, voilà.
Voilà.
Mais donc, même si toute cette vengeance est très sûrement parsemée de mythes, elle commence à imposer la grande principauté de Kiev comme chef de tout ce patchwork de peuples et de royaumes de la Russe de Kiev. Et donc tout cela va se poursuivre dans la Russie tsariste, qui connaît évidemment des modernisations, des mutations, notamment sous Pierre le Grand au XVIIIe siècle, et qui va durer donc jusqu'en 1918, jusqu'à la mort de Nicolas II et la révolution d'octobre 1917, qui met en place le parti communiste ou bolchevique à la tête de la Russie, et qui va peu à peu créer l'URSS. Il est bon de noter que cette influence de Kiev résiste toujours actuellement. C'est notamment une des raisons des ambitions territoriales de la Russie sur l'Ukraine actuellement. Mmh. Voilà. Et qu'on peut voir qui se traduit très bien dans le conflit russo-ukrainien qui se déroule encore actuellement. Cela conclut donc notre émission du jour sur la vengeance d'Olga de Kiev et le début de la puissance russe dans l'Est de l'Europe. On se retrouve donc pour le prochain numéro qui traitera très sûrement de la mode depuis la Révolution française. Et surtout, n'oubliez pas,
l'histoire, c'est vieux, c'est fin, mais ça se mange sans fin.